Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Coucou, c'est Mimi.
Coucou, c'est Fab.
Et bienvenue dans
The Boss Club.
Je déteste ce niveau sonore.
Les gens ne vont pas entendre parce que j'ai mis loin.
Ah, oh, il est fort.
Eh oui.
The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mercredi sur deux, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, nous sommes avec Quentin. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Salut Quentin.
Tu es Quentin Zution.
Tout à fait.
Connu également sous le pseudonyme Monsieur Q.
Tout à fait.
Le mec laisse tomber son pseudo.
Ouais, je lâche tout. L'adolescence est terminée.
Mec est... Voilà.
L'adulte. Et tu es auteur de bande dessinée.
Ouais.
Et tu sors ce 14 juin une nouvelle BD qui s'appelle Chromatopsie.
Tout à fait.
Qui est très très bien. Et si
merci.
Vous voulez l'acheter, il y aura les liens dans la description, je vous le conseille. Elle est d'une qualité formidable.
Oh, dis arrête.
Merci beaucoup d'être là, Quentin.
Bah, merci à vous deux de m'inviter, ça me fait très plaisir. J'attendais.
Bah oui.
Le mec attendait dans son salon.
Tous les jours devant sa boîte aux lettres.
Je me disais, bon, alors,
j'attends mon invitation.
Ça vient quand?
J'attends le recommander.
Eh bien, tu es là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quentin, ça veut dire quoi pour toi être un homme ?
Eh bien, c'est une très grande question. Et c'est précisément le sujet d'une autre BD que je fais pour septembre, qui sortira en septembre. Et on développe ces thématiques-là et on se rend compte que, bah, en fait, la meilleure réponse à cette question, c'est de ne pas y répondre. Et c'est de prendre une margarita et de s'allonger sur le sable et de se dire « Bouf, on verra plus tard
». Bon ben voilà, merci beaucoup, c'était
c'est la fin de ce Boys Club.
Allez, bye, à une prochaine.
Non, ok, voilà. Je vais reformuler. Est-ce que tu as un souvenir du moment où tu t'es rendu compte que tu étais un homme?
Je pense que c'est la puberté. C'est à la puberté. Moi, de toute façon, quand j'étais enfant et jusqu'à mes 10, 11 ans, etc., je me suis toujours construit en... Enfin, il n'y avait pas ces questions-là, je ne me les posais pas spécialement. Et moi, j'ai toujours beaucoup plus de potes meufs, de copines, même petits. Mais petits, j'avais quand même aussi plein de potes garçons. Et à l'adolescence, ça... je sais pas, il y a eu un clivage. Et où là, du coup, oui, je suis beaucoup plus resté avec des meufs, mais parce que je pense que j'ai voulu me construire, enfin, contre ça, en fait, je pense.
Contre quoi ?
Eh ben, contre le masculin, où moi, même petit, je m'étais jamais reconnu dedans. Enfin, moi, c'était des héroïnes, tu vois, que je voyais. Moi, je comprenais pas, par exemple, pourquoi on jouait à Action Man, quoi. Je comprenais vraiment pas ce délire. Mais enfin, ok, il a des gros bras, il a des mitraillettes et tout, mais Ariel, elle signe un pacte avec le diable et elle coupe ses jambes, quoi. Enfin, ça a queue de poisson. Enfin, je trouvais, au final, ouais, pour moi, enfin, c'était plus fort. En fait, je trouvais que oui, tous les personnages féminins étaient pour moi beaucoup plus complexes et forts, et c'est eux que je regardais et que j'admirais, en fait. Et voilà.
Et du coup, t'avais l'impression qu'à la puberté, les garçons, ils se sont construits plutôt pour ressembler aux héros masculins qui, toi, te
c'est
parlaient
ça.
Pas.
C'était le moment où il fallait justement comprendre et entrer dans ce que... À l'adolescence, je pense que c'est le moment où, justement, on se dit « Bon, bah, il faut que j'entre dans ce que la société attend de moi. » Et moi, j'ai même pas essayé, en fait. Je me suis dit « Waouh, c'est perdu d'abord !» J'arriverai pas, quoi. Enfin, parce que, ouais, je pense que j'avais pas... je comprenais pas les codes, déjà. Je les comprenais vraiment pas. Et je voulais pas les apprendre. Et parce que... Alors après, je pense que ça, c'était juste clairement dans ma tête. Mais ouais, souvent, les garçons, je les trouvais bêtes et débiles. Et après, c'est aussi parce que c'est ce qu'on dit des mecs aussi. On leur dit « Oui, mais ça, c'est un mec. Bon, il est un peu zozo, quoi. » Moi, je dis « Ok, bon, bah alors, je veux pas être un mec. Enfin, » c'est pas que je veux pas être un mec, mais je veux pas, en tout cas...
être zozo.
Convenir à ce que, du coup, c'est apparemment d'être un homme, quoi.
Mais tu ressemblais à quoi alors quand t'avais 14 ans, tu dis justement à cette période-là, à quoi ressemblait le Quentin de l'époque?
Physiquement, tu veux dire?
Non. Enfin, oui, physique, si tu veux, mais d'une manière générale, quoi.
Ouais. Bah déjà, enfin, je pense que même ça peut, ça se traduit aussi dans le physique et les manières, tu vois. J'ai toujours été aussi un ado un peu maniéré, donc très frêle, etc. Et donc, bah, déjà d'entrée de jeu, ça convenait pas. Même si bon, quand t'es ado, il y en a énormément qui sont frêles. Là, on s'est pas encore forcément développé, etc. Mais voilà, ils voulaient tous commencer à faut que je fasse du sport et tout, machin. Moi, j'étais là, oh bah non, moi je vais, je sais pas, je vais dessiner Esmeralda et puis. Et ça sera super. Et après, ouais, j'étais assez timide aussi. Assez, oui, émotif et tout. Mais ça, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé de toute façon. L'émotion, moi, je l'ai toujours laissé aller. Ce que je me disais, mais je pense aussi parce que j'arrivais pas forcément à la contenir. Parce que bon, enfin, j'ai un petit souci d'hypersensibilité, tout ça, on connaît bien. Mais.
Les artistes.
C'est ça, toujours, tu sais. Mais par contre, je voyais qu'on me renvoyait quand même une image de. Quand même, de très émotif pour un garçon, quoi. Il faut. Calme-toi.
Qui c'est qui te renvoyait cette image? Est-ce que c'était plutôt les adultes ou les garçons de ton âge? Ou les filles?
Les filles, pas du tout. Mais moi, je remercierai jamais assez les meufs dans ma vie, quoi. Elles m'ont sauvé de tellement de trucs. Et oui, c'est plutôt les garçons et les adultes, que ce soit... Voilà. Enfin, moi, c'était... Ben, pas mes parents. Mes parents ont toujours été hyper chill là-dessus. Vas-y, écoute, mets-toi une robe de princesse, on s'en fout. Mais c'était les grands-parents ou tout ça. Où là, oui, on ressent, même tout petit, moi, j'ai une vision... C'est un des seuls trucs de mon enfance, de ma toute petite enfance dont je me souviens, où pour un Noël, j'avais commandé un circuit de voiture vers 5 ans. Et donc, moi qui commande un circuit de voiture, ça avait un peu surpris tout le monde. Et je me souviens que oui, ma grand-mère était rentrée dans la chambre, il y avait mon père et ma mère, et elle a dit « Ah ben enfin, vous lui achetez un vrai jeu de garçon et... » Et ça, je pense que je l'ai fantasmé après, mais en gros, moi, dans ma tête, elle a rajouté « Bon, vous en ferez pas une meuf ou je sais pas quoi, quoi. » Et donc ça, bon petit traumatisme, hein, je pense, pour que ça me reste en tête aussi longtemps. Mais voilà, donc comme quoi, voilà, à 5 ans, en fait, là, j'ai compris que, OK, donc là, ce que je suis en train de faire, vous êtes en train de me dire que c'est pas normal, en fait, que je joue... à d'autres trucs avec mes grandes sœurs et tout, parce qu'au final moi je récupérais les jeux de mes grandes sœurs, en plus j'ai deux grandes sœurs, donc je jouais avec, quoi. Mais du coup, oui, tu ressens qu'il y a un truc qui rentre pas dans les codes qu'on attend de toi, quoi. Et donc oui, ça commence à 4 ans, quoi. Enfin 5 ans.
Est-ce que tu penses qu'il y avait un relent d'homophobie dans ce qu'elle disait, ta grand-mère, ou est-ce que c'était une question de convenir au genre?
Je sais pas, je pense que c'était plus convenir au genre, parce que mes grands-parents, ils savaient même pas ce que c'était homosexuel. Si tu veux, pour eux, c'était quelque chose qui n'existe pas et qui sentait, ou en tout cas, on n'en parle pas et tout. Il y a pas de... Donc non, je pense que c'était juste, c'est bizarre et il faut pas toucher ça parce que c'est pas normal, quoi.
C'est pas dans l'ordre des choses.
Voilà, c'est ça. Non, je pense pas qu'il y avait un relent d'homophobie. Parce que je pense même pas qu'ils y aient pensé. Parce que je pense que pour eux, c'est quelque chose de tellement inimaginable que du coup, non, tu te dis c'est juste bizarre. Et
ça n'arrive qu'aux autres. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Pas de ça chez nous.
Ah bah non. Mais tu sais, les PD, c'est comme les meubles. Enfin, c'est comme, je sais plus, qu'est-ce qu'ils disent?
Hein?
C'est comme les... Oui, les PD, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille ou un truc comme ça.
J'aime beaucoup. Ce sera peut-être le titre de ce podcast.
Super. C'est vraiment un truc qui se dit.
Ouais.
Ok, d'accord.
Nous, on a 3 canapés à la rédac, 4 canapés dans cette rédac. Donc, on nique la moyenne nationale.
Ah, oui, mais tu parles de vrais canapés ou?
Maybe.
Oh, oh, on ne sait pas.
Et je me demandais, parce que la puberté, c'est aussi souvent le moment des premiers désirs sexuels et des premiers émois amoureux qui changent un peu de ce qu'on a eu pendant l'enfance. Comment t'arrivais à concilier le fait que t'avais pas beaucoup d'affinité avec les garçons et qu'en même temps, tu désires des garçons?
Alors donc là, c'est le moment où ça pète, où ça vrille dans ta tête. Parce que donc, en fait, c'est le moment où tu vas passer 5 ans de ta vie à te mentir et à mentir aux autres et à tout ça. Donc,
Entre quel âge et quel âge ?
Moi, j'ai eu mon premier mec à 18 ans. Donc, entre 13 et 18, ouais, à peu près 5 ans, quoi. Et même quand j'ai eu mon premier mec, par contre, j'avais pas encore fait mon coming out. Enfin, je l'ai fait à 18 ans aussi, mais plus tard, dans 18 ans. Du coup, comment on se construit là-dessus Alors déjà, il y a un truc très étrange. Donc, enfin, je subissais un peu de harcèlement scolaire. Bon, alors à un degré, enfin, c'était juste de temps en temps. C'était même pas en face de moi, mais t'entends un petit susbit ou machin et tout. Alors que même toi, en fait, t'es même pas encore persuadé de ça. En fait, tu vois, tu découvres, ça t'inquiète un petit peu. Tu te dis. Il était bizarre ce rêve.
Il y a une scène similaire dans Love, Simon, qui est donc un teen movie sur un héros qui est homosexuel et qui a toutes ces problématiques de coming out et tout. Le film sort le 27 juin au cinéma. Allez le voir, il est cool.
Mademoiselle est partenaire.
Tout à fait.
Je dis ça, j'y
arrive. Et dedans, il parle à un moment des premières fois où il s'est posé des questions et il explique qu'il avait des rêves étranges avec Daniel Radcliffe parce qu'en face de son lit il y avait un grand poster de Harry Potter et du coup à un moment il se lève dans la nuit tout en sueur, voilà, vers 12-13 ans et il enlève le poster et tu vois qu'il est là genre non Daniel laisse-moi tranquille.
Non, au secours. Mais moi oui, un des premiers rêves érotiques dont je me souviens, c'est là où c'est très étrange et je pense qu'on se construit un peu en fucked up, c'est que du coup c'était avec un des bourreaux du harcèlement en fait. Et bon, là, on entre dans, je pense, un petit système un peu masochiste sur tout ça. Parce qu'en plus, il correspondait vraiment. Enfin, tu vois, c'était le sportif qui faisait, je sais plus quoi, du handball ou du rugby, enfin, machin.
Et donc, tu subissais du harcèlement scolaire qui était basé sur l'homophobie alors que toi-même, t'étais pas encore sûr de ton orientation. Et comment tu passes de ça à 18 ans, t'as ton premier mec, sans être out auprès de tes proches, mais en tout cas, t'es out auprès de toi-même, oui. J'imagine, à ce moment-là. C'était quoi la progression ?
J'ai quand même commencé à en parler à des potes, de toute façon. Et la progression, en fait, c'est que je suis rentré aux Beaux-Arts, et c'est tout le monde s'en fout, et tout le monde est très bien, et il n'y a pas... Enfin, voilà, c'est quand même un milieu hyper ouvert, et personne n'a de problème là-dessus, donc... Et il y en avait, en fait, aussi. C'était la première fois que j'en rencontrais d'autres. des PD, je veux dire.
Je l'avais, Quentin.
On avait compris.
Oui, c'est ça.
Des gens avec des lunettes.
Déjà, c'est la première fois que j'en rencontrais des gens, en fait.
Tu veux dire qu'avant ça, dans ton adolescence, tu n'avais jamais rencontré d'autres homosexuels ?
Mais il y en avait sans doute.
Oui.
Mais c'est juste que je ne savais
tous
pas, etc. Et après, j'avais eu déjà un premier truc, en fait, à 17 ans. Mais donc, c'était pas une vraie histoire. Là, c'était plus en allant sur Internet, des forums, etc. Mais du coup, en fait, je parlais avec des mecs homosexuels, mais beaucoup plus âgés que moi. Parce que, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, en fait, dans le milieu homo. C'est, un garçon assez jeune avec quelqu'un d'un peu plus âgé. Parce que nous, en fait, on peut pas aller draguer Maxime après le cours de SVT, tu vois. On sait pas si on va se prendre une droite, on sait pas s'il est, même s'il est très gentil, on sait pas s'il est homo et tout. Donc du coup, en fait, on cherche à assouvir aussi notre besoin d'affection et de désir avec des gens, que ce soit virtuel ou alors, enfin, il y en a d'autres qui vont déjà en boîte, etc. Mais en fait, dans des lieux où on est sûr, en tout cas, de la sexualité de l'autre personne et où aussi il y a un truc, ils nous apprennent des choses. Alors après, il faut faire attention à ne pas rentrer dans le paternalisme et tout. Il peut y avoir des dangers aussi dans ces techniques-là. Mais on est quand même tellement seul que du coup, on n'a pas le choix, quoi. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile aussi avec les applis de rencontre, etc. Mais au final, moi, j'ai la chance d'être à Paris, donc tout va bien. Enfin, je peux rencontrer des homos à tire-larigot, quoi. Mais bon, quand t'es en plein milieu d'une campagne et que le premier mec sur Grindr, il est à 15 km, et que t'as pas de voiture et que tu vois, t'es au lycée et tout, c'est plus compliqué, quoi.
Au sujet de ce côté des hommes plus vieux qui prennent un peu sous leur aile, alors de façon saine ou moins saine, des mecs plus jeunes, je me souviens que quand Call Me By Your Name est sorti, le film qui a eu beaucoup de succès, il avait été critiqué parce que le personnage de Timothée Chalamet dedans a 17 ans et il est séduit par un personnage adulte joué par Armie Hammer et du coup il y avait des gens qui avaient considéré ça comme une apologie du détournement de mineurs. Et je sais que toi tu t'étais exprimé il me semble sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'en fait quand t'as pas les mêmes chances que tout le monde,
donc je vois pas pourquoi on les raconterait pas quoi. En fait moi c'est ça qui et bien sûr qu'il y a des problèmes dans cette relation amoureuse qu'ils ont les deux, mais en fait ils te disent pas faites-le. Ils oui, te c'est... disent c'est une histoire voilà et après et aussi donc il peut y avoir des problèmes, mais il y a aussi il fait du bien aussi ce film de voir justement un film avec deux homos où ben ça parle pas sida, ça parle pas il y a pas d'agression, il y a pas d'homophobie, même les parents du petit sont hyper cool, tout le monde est cool, ils sont en vacances, c'est l'été, je veux dire en fait ben on en a besoin nous aussi d'histoires comme ça où il fait beau, où il y a le soleil, où il y a la mer et où on est amoureux quoi. Et pas toujours rentrer dans le drame parce qu'il y a quand même énormément d'histoires sur les homos au cinéma ou les LGBT en général, enfin qui finissent assez mal quoi, enfin on se suscite tous apparemment à la fin. et là ouais, moi ce film m'a fait du bien, je suis conscient qu'il y a des problèmes, je suis et après bah c'est aussi à nous on peut expliquer aux plus jeunes, mais voilà, enfin si toi tu un jour tu rencontres un garçon qui est un peu plus âgé, bon puis en plus là c'est 17-24. On n'est pas sur... Enfin, moi, quand j'avais 17 ans, l'autre, il en avait 37. Hein. Donc, on est... Mais tu vois, en fait, là, aujourd'hui, avec Internet et tout, c'est plus facile d'expliquer aussi aux jeunes que sois sur tes gardes, etc. Et c'est pas grave. Mais en même temps, comment... En fait, je ne comprends pas comment on peut essayer de contrôler le désir des gens. Enfin, on parle d'amour, on ne parle pas d'un truc qui se contrôle. Donc, si t'es amoureux d'un mec de 37 ans et que ce mec de 37 ans est amoureux de toi et que toi t'en as 17, 18, bon bah au pire, si t'en as 17, attends 6 mois, au moins t'es sûr.
Mais ça n'enlève pas l'aspect toxique, potentiellement toxique de la relation.
Ça ne l'enlève pas, bien sûr.
Peut-être que dans ce cas-là, le conseil qu'on pourrait donner, c'est peut-être écoute tes proches et les gens qui t'aiment. Et...
Oui, bien sûr.
Oui, déjà, je pense, reste pas tout seul en tout cas dans une relation secrète qui fait que s'il y a un problème, tu pourras pas forcément te confier parce que personne sera au courant de la relation, quitte à même peut-être que ça soit juste des gens sur internet si t'es pas prêt à être out auprès de tes proches dans la vraie vie,
c'est vrai que
des gens qui
est peut-être encore plus important chez les jeunes homos puisque donc la solitude aidant à se dire dès que tu trouves quelqu'un qui s'intéresse un peu à toi, bon t'y vas quoi, mais en fait on peut pas accuser juste un film de tous les maux de la terre.
Ah oui, c'est sûr.
T'as d'autres films en tête comme ça? Je pense encore une fois peut-être aux jeunes mecs qui nous regardent, qui sont en train de se chercher ou je sais pas quoi, et qui cherchent des films un peu positifs. Justement, tu dis que tout le monde se suicide à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres films cool qui t'ont marqué, toi?
Films positifs. Alors, films pas trop, mais en ce moment, il y a plein de séries quoi, qui sont super. Il y a Sense8, c'est la fête, c'est la fête, et c'est la liberté.
Tout le monde tout nu.
C'est vraiment là, on est sur la liberté
nu,
des
hein.
corps et. Et on y va, pas de spoil, j'ai pas vu le dernier épisode.
Moi non plus. Mais à mon avis, il y a un moment où ils sont tout nus.
J'espère bien. Et oui, et là, il y a plein de séries qui sont très positives et qui aussi n'enlèvent pas les petites misères qu'on peut se prendre et tout. Mais en fait, c'est pas le sujet et c'est pas pathétique. Mm-hmm. Je pense que là, on a arrêté de nous rendre pathétiques et parce qu'en fait, on peut être victime sans être misérable. C'est ça le...
C'est beau ce que tu dis.
Merci.
C'est dû à quoi, selon toi? Qu'il y a eu un vrai shift, en fait, dans les histoires qu'on raconte sur les homosexuels.
Parce que, je sais pas, je pense qu'on en a eu marre. Et y a aussi donc plus en plus de personnes qui connaissent ces sujets ou qui l'ont vécu, etc., qui s'emparent et qui veulent raconter leurs histoires. Avant, c'était plus compliqué, je pense. Enfin, je sais pas trop, je m'y connais pas vraiment en cinéma et tout. Mais oui, d'imposer son histoire et d'en faire un film chez Universal et tout, et d'avoir des financements, c'était peut-être plus compliqué, je sais pas. Mais là, aujourd'hui, y a un truc qui est à la fois triste et très bien, c'est que ces sujets sont aussi un peu vendeurs. Et du coup, bah, autant en profiter et entrons dans la faille, quoi, et on y va. Et en plus, je pense que c'est même pas que ça, c'est juste que oui, bah, par exemple, là, les éditeurs, tout ça, enfin, en tout cas, dans le milieu du livre, n'hésitent plus du tout à créer des collections ou à, enfin, sortir des livres sur le féminisme, sur la sexualité LGBT, etc. Et je pense que c'est même pas qu'une question d'argent, c'est que, bah, en fait, ils sont dans le même nom, dans la même société que nous, et ils voient bien qu'elle est en train de changer aussi, et donc bah, ça les intéresse de parler de la société qui change. En fait, c'est ça le travail d'éditeur ou de producteur, etc.
Maintenant que tu as grandi par rapport au Quentin de 17 ans ouais. qui découvrait le milieu, est-ce que tu t'es retrouvé à prendre le rôle du mec plus vieux avec des mecs plus jeunes, à faire ce rôle de mentor?
Moi, je pense, moi, je suis toujours en daddy issues, j'ai toujours pas. Mais parce que ça, je pense que c'est aussi lié à ce que, enfin voilà, on m'a toujours considéré comme le garçon gentil, le garçon frêle, le garçon qui fait pas de vagues, etc. Et que j'en suis arrivé à même m'infantiliser moi tout seul, en fait, si tu veux.
T'as quel âge aujourd'hui?
J'ai 28 ans.
Ok.
Et si tu veux, enfin, je suis toujours le petit minet, tu vois. Enfin, même physiquement, tu vois, j'ai toujours, enfin là, j'ai une petite moustache qui m'a pris 2 semaines.
Je jugerai pas. Même si tu vois, toi,
là, je me suis pas rasé depuis 2 semaines. On n'est pas sur un truc très folichon.
Alors c'est en audio, mais voilà, oui. On n'est pas sur une full barbe Ron Swanson.
Et oui, en plus, enfin, il y a toutes ces catégories dans le milieu homo, du bear, enfin, du poilu, du twink, donc du minet, frêle, tout ça. Et alors, en fait, on apprend à en jouer au bout d'un moment et à se dire, bon, bah, écoute, oui.
En fait, est-ce que t'en as souffert à un moment? Parce que William Régeau, qui était un ancien invité du Boys Club, avait parlé des catégories, notamment masque for masque, donc les hommes gays qui correspondent aux critères de virilité et qui ne veulent que des partenaires qui y correspondent. Et en fait, il décrivait ça comme la frontière est fine entre le côté, bah en fait c'est mes goûts, j'ai le droit d'avoir des goûts, et le côté un peu excluant et blessant de il faut quand même beaucoup bosser pour correspondre à vos goûts,
oui,
et lui
sûr.
Il a pas forcément de cases parce que tout le monde ne rentre pas dans des cases.
Oui.
Est-ce que toi t'en as souffert de ces catégorisations?
Pas trop, moi j'en ai joué assez vite en fait, j'ai fait, mais parce que c'était le rôle qu'on a voulu me donner et où là j'ai bien voulu rentrer en fait, et j'ai bien voulu, enfin au tout début quand j'allais en boîte à 17 ans même, enfin il y avait un truc très bizarre et sans doute assez glauque que je faisais, mais je me faisais quand même passer pour un mineur parce que en plus je faisais 16 ans quoi, et il y a ce truc oui où je me suis toujours infantilisé dans la séduction, et ça je sais pas pourquoi on en parle avec ma psy. on en discute, c'est pas encore très très clair. Bon, sans doute des trucs du père, tout ça, mais
j'allais te demander,
oui, justement,
à quoi ressemblent tes relations avec ton père?
Et ben ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais avant j'en avais pas en fait, enfin j'avais pas vraiment de relation avec mon père. Quand j'étais vraiment tout petit, il était jamais là. Enfin, il était toujours au travail ou ailleurs. Et quand j'ai à 11 ans, mes parents ont divorcé. Et du coup, bah, je voyais mon père un week-end sur deux. Mais bon, enfin, c'était plus la fête, etc. En fait, et ensuite, quand j'ai grandi, mon père est plutôt devenu mon pote. On était, par exemple, enfin, en fait, je lui demande rien à mon père. Je lui demande pas tellement de services, rien du tout. Enfin. Et ça va mieux maintenant, mais parce qu'on a eu de grandes discussions aussi, et où lui, en fait, bah, s'est rendu compte qu'en fait, il s'est pas occupé de ses trois premiers enfants, enfin même de ses 4 premiers enfants. Il a 57 ans.
Okay.
Et du coup, il a fait des enfants après avec une autre personne après avoir divorcé.
On est 4 du même enfant, et ensuite, oui, il a fait une petite demi-sœur. Et oui, bah, là, c'est assez récent. Mais du coup, bon, bah, on est content, hein, mieux vaut tard que jamais.
Mais c'est pas tard en plus. Hein.
Non.
Oui.
Bah, ouais.
Non. Ah, 28 ans quand même.
Ouais.
Ma plus grande
sœur a 36 ans en plus, donc.
Ça pourrait être plus tard.
Ça pourrait être plus tard, mais ça aurait pu être plus tôt.
C'est pas faux.
Le verre à moitié plein,
merci
toujours Fabrice.
pour ces bonnes déductions. Et oui, et je pense que moi, j'en ai assez voulu aux garçons, en fait. Je pense qu'il y a de ça aussi, le fait de se construire un peu contre le masculin, etc. Il y a sûrement aussi, tu vois, si on cherche vraiment au fin fond des horreurs qui se trouvent dans mon ventre.
Tu leur en voulais de quoi ?
Mais t'en voulais, donc t'en voulais au garçon et donc à ton père, c'est ça que tu veux dire ?
Mais en fait, je pense que j'en voulais au garçon parce que pour moi, un garçon n'était pas capable de... Enfin, vu que mon père était pas capable... Enfin, je trouvais que mon père incapable, en fait, okay. de quoi que ce soit. Bon, j'espère qu'il va... Bah si, en fait, écoute.
Je peux lui renvoyer. Vous avez déjà eu cette discussion-là ensemble ou...
Quand vous pas avez vraiment, cette grande discussion. Dis, c'est très récent et c'était une discussion. En plus, on était un peu éméchés.
On connaît ce truc sur Boys Club.
C'est très courant, les invités du Boys Club qui disent « je parle pas de mes émotions sauf quand j'ai bu
oui. »
et qui, du coup, boivent dans l'idée de... Le but, c'est d'arriver à parler ouais. de trucs intimes avec d'autres mecs, donc on va picoler.
Mais moi, alors, non, après... c'est vrai que je parle énormément de mes émotions, mais en fait, c'était impossible d'en parler à mon père. Par voilà. contre, c'était vraiment le blocage... paternel quoi. Et parce que tu te dis si c'est même impossible de juste lui demander est-ce que tu peux venir me chercher à l'école. Bon.
Oui.
Parce que même ça, j'avais peur en fait. Je pense que oui, il y avait un côté un peu effrayant de mon père en fait. Parce que.
Il ressemble à quoi ?
Oh bah, puis en plus, ouais, il est grand, il a la grosse barbe, il a une très grosse voix. Enfin, ouais, il y avait le côté.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Et au final, oui, moi, mes contacts avec mon père, c'était quand on me disputait ou alors de temps en temps pour jouer à la bagarre. Mais moi, même en plus, jouer à la bagarre, ça me faisait un peu chier.
Il a jamais essayé de
et
s'intégrer.
Et ce qui est assez
dans...
drôle, par contre, c'est que à chaque fois qu'on jouait à la bagarre, alors ça, je sais, là, j'y pense, mais à chaque fois, je lui faisais vraiment mal.
Je finis par lui mordre l'oreille.
Ouais.
Et il réagissait comment ?
Il me disait, oh bah, arrête, t'es con. Enfin, tu vois, mais, il me disait, putain, tu m'as vraiment fait mal, calme-toi. Mais je sais pas s'il y avait un truc, je sais pas, peut-être.
Peut-être qu'il y avait un truc à sortir.
C'est
un
pas
message.
Impossible. Hein.
Oui, peut-être.
La bagarre, c'est juste la bagarre, c'est pas fait pour tabasser normalement.
Oui.
Quand est-ce que t'as commencé à voir ta psy ? Enfin, à suivre une thérapie en général, après peut-être qu'il y a
en
des...
régulier ?
Ouais. Enfin, je sais pas, comme tu veux.
Récemment, enfin cet été.
Et ça se passe bien ?
Ça se passe bien. Alors après, j'ai changé en cours de route parce que j'ai déménagé et je voulais pas retourner.
Pourquoi tu poses cette question, Mimi ? Parce que je vois que Quentin est interloqué par cette question et sans doute les auditeurs le seront également. Peut-être tu peux expliquer.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'invités qui suivent des thérapies. Et il oui. y en a même eu comme Lucien Mène qui arrive en disant : moi, j'ose pas aller voir un psy. J'ose pas, j'ai peur, et qui ensuite fait sa psychothérapie tout seul comme un grand. Donc en fait, il a pas tellement peur de parler, mais
oui.
le aller voir un psy, ça
mais
reste
en fait,
un truc
c'est
compliqué.
L'appel qui est le plus dur, hein, clairement. Enfin, moi en plus, j'ai appelé parce que je me suis dit si j'envoie un mail, au final, elle va me donner le rendez-vous, et puis je vais pas y aller. Si ça se passe par mail, je me suis dit je vais pas y aller, tu vois. J'avais besoin de, hop, là au moins j'étais au téléphone, donc non seulement tu fais l'effort de téléphoner, et on sait que notre génération a clairement du mal avec
oui
le...
Je sais pas de quoi vous parlez.
Avec le téléphone, et donc je me suis dit allons-y, mais après j'y suis allé pour un déclic, bon là on n'en parle plus du tout, et on est passé à peu quoi que, à peu près autre chose, mais c'était un chagrin d'amour, et du coup, en fait je pense que c'est les bons moments, les trucs un peu... qui durent pas longtemps, mais qui font très très mal sur le coup. Bon bah là, autant appeler le thérapeute ou la thérapeute pour... De toute façon, vous allez pas parler que de ça, clairement. Et donc ouais, moi en fait, je pense que j'avais besoin d'un prétexte et d'une excuse, et que là, bon bah, elle tombait à pic, vu que c'est clairement un moment où t'as l'impression que tu vas crever, de toute façon.
Et t'as quand même eu ce réflexe-là, parce que t'as des gens autour de toi qui vont consulter, ou t'as déjà eu des... des expériences qu'on t'a racontées, parce que pour moi, c'est, même si t'as envie de crever, la plupart des mecs, ils se disent juste, c'est pas une option possible, en fait. Tu le gardes juste pour toi et tu crèves dans ton coin.
Ouais, ouais. Moi, là, enfin, j'avais... Peut-être que pour une fois, j'avais plus envie de crever d'amour, en fait. Tu vois.
C'est une bonne chose en soi.
C'est donc ça, grandir.
Bah, peut-être, oui. Bon, alors, t'en crèves toujours un peu, hein. De toute façon, hein, t'as beau grandir, je pense que les chagrins d'amour, c'est quand même un des pires trucs de la vie, je pense. Donc, et c'est pas des choses que tu vois. En fait, moi, ce qui m'a rassuré, c'est que justement, la psy, elle m'a pas dit, mais soyez fort et vous allez le surmonter, etc. Elle m'a juste dit, vous savez, en fait, vous allez jamais le surmonter parce que vous allez toujours vous en souvenir et ça va toujours revenir. En fait, il faut pas le surmonter, il faut juste apprendre à vivre avec et à garder les bons souvenirs et les mauvais. Bon, ben, au final, ils vous auront fait vivre quand même des choses. En fait, vous étiez tellement vivant à ce moment-là, quoi. Et même au moment dur, bah ouais, qu'est-ce que tu vis, quoi ? Enfin, tu vis en souffrant de ouf, mais tu ressens, là, il n'y a pas de souci.
C'est ça, et je pense que c'est un truc qui est compliqué en tant que mec de comprendre ça. Alors, je pense en tant qu'être humain, mais en tant que mec encore plus. C'est-à-dire que de souffrir, c'est pas forcément mal.
C'est ça.
Ça te permet d'être vivant, quoi.
Et en fait, on nous dit d'enterrer plutôt que de souffrir et de prendre le truc. Et de toute façon, c'est pour ça que bah, dans ma BD, j'ai fait une BD sur cette rupture-là. Et où je l'ai fait, en plus, 6 jours après la rupture. Donc clairement, on est sur du... très très frais, et je me suis dit mais fais-le maintenant, parce que dès qu'on parle de trucs de souffrance, etc., les gens nous demandent du recul, ils nous demandent souvent d'être drôles aussi, et c'est très bien, tu vois, c'est très bien de rire d'un chagrin, et c'est très bien, ça déculpabilise, ça, tout ça, mais en fait, moi je me suis dit, mais là, allons vraiment dans le pathétique à balle, parce que c'est des moments où clairement, mais tu deviens con. Et t'es dans le pathos à balle et t'es creepy, tu deviens creepy, mais tu te découvres, tu vois. Tu sais, quand des gens te disent « Putain, mon ex, attends, il est venu chez moi pour me faire une sérénade, pour me récupérer. » Mais moi, j'étais à ça de le faire, quoi. et tu te découvres, ouais, vraiment, quand t'es jamais plus vrai que quand t'es pathétique, quoi. Donc, autant... mettre sur un piédestal ces émotions qui sont les plus vraies, je pense, qu'on peut ressentir.
Est-ce que ça, quand tu l'as dessiné, est-ce que ça t'a exorcisé d'une certaine façon ? Ou est-ce que c'est resté en toi ?
Je sais pas, parce que, enfin, je pense que oui, enfin, je pense que j'avais besoin de le faire, parce qu'à la base, en plus, donc, c'est une des scénettes de la BD, et donc c'était pour noir, enfin, la couleur noire, et ça devait être complètement autre chose à la base. Enfin, j'avais déjà écrit ce que ça devait être.
Parce que le concept de ta BD, c'est que t'as des scénettes en fonction des couleurs.
Oui, c'est ça.
Pour remettre un peu de contexte. Hein,
enfin, voilà, c'est un personnage, une couleur et une métamorphose.
Oh là là, oh là, le concept.
Le pitch.
Conceptuel.
Qualité.
Et ouais, ça devait être autre chose. Et je me suis dit, non, mais là, ouais, j'ai envie de... J'avais besoin d'en parler. Alors, mais je pense aussi que j'avais besoin qu'il le voie. Enfin, que mon ex, j'avais envie aussi de faire ça. Après, j'ai quand même fait au mieux pour... mais ça, c'est parce qu'on grandit. Et ça, c'est très, très bien. Pour ne pas du tout rentrer dans le manichéisme lambda où c'est pas bien, c'est un connard, il m'a quitté. De toute façon, c'était trop un pervers narcissique manipulateur. Enfin,
ce qui arrive parfois, ce n'est pas toujours le cas.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Et je pense qu'on a quand même... mais ça, après, c'est parce que c'est nos émotions et c'est complètement viscéral. Je pense qu'on a... on a le pervers narcissique assez facile. Quand même. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais facilement. Avant quelques histoires, enfin voilà, où j'étais plus vieux, oui, j'étais là, oui, mais ah, tous des cons, et de toute façon, je vous déteste, et les hommes, machin. Et mais on a tous notre part de responsabilité, on est tous le monstre de quelqu'un, n'est-ce pas ? On est tous le pervers narcissique de quelqu'un. Je suis sans doute le pervers narcissique de quelqu'un. Je ne sais pas comment mes ex parlent de moi, quoi.
Une relation toxique, de toute façon, ça se fait toujours à deux, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive.
Parce que sinon, ben
je pense, parce que de toute façon, c'est vrai qu'il y a ce truc du sadisme et du masochisme qui rentre beaucoup en jeu dans ces relations-là. Et le maso en a... le mec qui se montre.
Je vais vraiment
Quentin
te montrer.
Quentin est en train de se pointer du doigt.
Et le masochiste, enfin, au final, il demande ça. C'est-à-dire, tu cherches, c'est lié avec tout ce qui est syndrome de l'abandon, etc. Enfin, wow, on est vraiment dans la psychanalyse.
C'est intéressant. Hein.
Ça finit souvent comme ça, les boys clubs, tu sais.
Oui, c'est ça. Et où la dépendance affective, où tu cherches la punition, en fait. Tu vas, ça c'est une excellente youtubeuse qui m'a parlé de ça, qui s'appelle Mardi Noir, je sais pas si vous connaissez, et qui en fait fait, bah regarde, franchement ça pourrait vraiment vous plaire pour Mademoiselle. C'est une meuf qui a un concept qui s'appelle psychanalyse-toi la face, et donc à chaque fois elle prend un concept et elle se maquille en même temps.
J'ai vu. J'avais pas son pseudo, d'accord.
Et c'est vraiment super.
En fait, je me demande, est-ce que t'as envie de sortir de cet aspect masochiste de toi ? Ouais, parce que bah, ça te fait souffrir. Est-ce que c'est une dynamique de laquelle t'as envie de sortir, peut-être via ta thérapie ? Ou est-ce que pour toi, c'est qui tu es et t'aimerais juste apprendre à peut-être mieux le vivre ?
Alors non, je pense que j'aimerais en sortir un peu, quand même. Oui, j'aimerais en sortir parce que justement, moi, avec les garçons... Je suis toujours dans un rapport de force que c'est moi qui vais imposer en fait et qui vais enfin où je vais me soumettre ou mais en fait je vais c'est très bizarre. Je sais pas trop comment.
Oui, tu vas demander à l'autre de rentrer dans un rapport de force et de te dominer en fait.
Voilà.
OK.
Et donc non, j'aimerais parce que clairement ce n'est pas sain pour une relation. Et voilà, mais après, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand ma psy m'a dit, mais peut-être mettez-le ailleurs, ce rapport de force, en me faisant 1000 clins d'œil.
Ailleurs, de type où ça ?
De type beaucoup plus intime, je pense. Et donc, oui, elle m'a dit ça, et peut-être, mais après, moi, j'ai aussi ce problème dans le cul, où bah, j'en avais fait un article sur Mademoiselle, d'ailleurs, sur la dysphorie post-coïtale, où au final, quand je me lâchais vraiment, enfin au final, quand j'allais aussi vers ce désir de soumission, etc. Enfin après, j'étais pas bien parce que je me considérais comme une petite salope, comme une petite pute, comme... Enfin voilà, et oui, où tu te rabaisses, qu'avec des mots féminins en plus, étrangement.
La
un indice.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la dysphorie ? Alors post-coïtal, ça, je pense qu'on aura compris, mais
oui.
pour les.
Eh ben, c'est après un orgasme plutôt de qualité.
Tant qu'à faire.
On préfère toujours.
Ou vraiment, t'as une haine de toi-même qui ressort et où t'as plus du tout envie que le mec te touche ou même te parle ou. Et oui, tu es un peu dans ton coin et tu t'attends que ça passe, quoi. Alors après, c'est pas forcément... ça peut durer, une minute comme 30. Ça dépend des fois. Ça dépend aussi du mec qu'elle a avec toi et comment il va te rassurer ou justement ne rien faire. Mais en fait, il n'y a pas de recette miracle, quoi. Tu sais pas comment il faudra réagir. C'est un peu comme une crise d'angoisse où tu sais pas s'il faut laisser la personne... gérer son truc toute seule ou si au contraire il faut l'emmener ailleurs et lui parler de complètement autre chose pour arrêter le truc, tu sais pas quoi.
Et donc ça c'est en fait, donc ta psy t'a dit que peut-être ton côté masochiste pourrait s'exprimer dans un cadre relativement fermé qui est celui du cul.
Oui.
Mais toi t'arrives pas ça s'arrête pas quand le cul est fini quoi.
Non.
Dans ta tête. Ok.
Non, pas du tout.
C'est un chemin.
Non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, dans mes relations amoureuses, je donne tout très vite, quoi. Parce qu'en fait, je pense que j'attends une réponse. J'attends... en fait, j'ai envie de leur dire, regarde comme je suis parfait, très vite. Mais je l'ai pas. Mais parce que moi, en fait, j'ai toujours été élevé, mais depuis tout petit... Enfin, ma mère, par exemple, elle m'a toujours... je rapportais les bonnes notes à l'école. J'étais le petit garçon adorable, qui présente bien, qui est tout mignon, qui fait pas de vagues, etc. Et en fait, j'avais un retour, là, familial et parental, etc. Et dans mes relations amoureuses, je dis, je fais pareil, mais dis donc...
Où sont mes bons points ?
Où sont mes bons points, quoi ? Merde ! On se donne, et vous êtes juste là...
À pas dire bravo.
À pas dire bravo, et à... ça suffit. Mais c'était plus, oui, dans la manière de, en fait, d'être gentil. D'être gentil. Et ça, bah, en fait, j'apprends doucement à l'être un peu moins. Parce que merde.
En tout cas, à l'être moins quand t'as pas envie de l'être.
Oui, c'est ça.
Ok.
À pas l'être
parce
trop.
Parce que c'est pas très grave d'être gentil en soi, mais c'est juste
non, mais
de te forcer
sûr.
À être gentil.
Bien sûr. Mais
plaisir.
En même temps, je pense, moi, j'ai un truc qui, je pense, un jour, faudra que ça pète, faudra que ça explose, parce qu'il faut. Quand on t'a toujours dit doux et même du coup, même ça s'est retraduit ensuite dans mes relations amoureuses et sexuelles, où voilà, où je suis le mec doux, etc. Et alors que moi, en fait, j'ai envie d'être agressif à l'intérieur. J'ai envie d'être, pas que sexuellement, hein. Mais, mais oui, t'as envie d'être sauvage, t'as envie, bah, ça, c'est pareil. J'en parle aussi dans la BD Chromatopsie. Replacement de produit. Bravo.
Il est fort.
Ou, d'ailleurs, c'est l'histoire qui ouvre le livre où c'est une jeune fille. On se dit qu'elle a, oui, peut-être 16-17 ans, enfin, une lycéenne qui fait son coming out d'une manière hyper agressive et qui se met à parler en dirty talk, en sexto à ses parents en plein repas de famille et à se masturber avec des steaks de viande rouge.
C'est donc la couleur rouge.
Pour vraiment exploser, quoi. Parce que on s'enferme tellement, mais ça, je pense que c'est aussi un truc qui est lié à la sexualité, au LGBT, etc. C'est que même le coming out, à chaque fois qu'on le fait, on a l'impression de s'excuser de quelque chose, en fait, un peu. Et ça se fait de cette manière-là. On n'avoue pas, mais au final, la manière dont c'est fait, ça fait penser à ça. Tu vois, tu dis à tes parents, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire, t'inquiète pas, tout va bien. Enfin, au final,
très solennel, quoi.
C'est eux qu'on rassure.
Ouais.
Alors que nous, ça fait 5 ans que personne nous a rassuré. Enfin, moi, dans tous les cas, ça faisait 5 ans que personne m'avait rassuré sur rien, etc. Et donc, j'avais besoin, oui, de faire une histoire violente sur ce truc-là, où tu montes sur la table et où tu cries à ton grand-père que t'adores sucer de la bite avec des termes crus, etc. Et parce qu'il y a vraiment quelque chose de jouissif là-dedans, en plus. Et c'est ça où je pense que, oui, c'est très bizarre. Moi, j'ai un truc très... Ça me fait limite parfois un peu plaisir de dégoûter mon grand-père, par exemple. Tu vois ?
Bah,
il y a un côté où ça me plaît.
En fait, c'est son problème s'il est dégoûté par un truc que tu fais qui est normal. Et,
oui.
Tu vois, c'est pas comme si tu lui disais « je tue des chatons », quoi.
Oui, non, bien sûr.
Si t'étais un mec hétéro et que tu faisais des sous-entendus sur « ah bah dis donc, on a bien fait grincer le lit hier avec Bobonne », je suis pas sûr qu'il... Tu vois, il serait dans la connivence peut-être plus. Là,
oui.
Ce qui le gêne, c'est son problème, en fait.
C'est ça. Oui, bien
comprendre
sûr.
Le côté,
et surtout s'il le
mais
fait
y a un côté où est vraiment jouissif de...
Et surtout s'il le fait depuis que t'es tout petit, quoi, qui te renvoie cette image-là, il y a un moment donné où en devenant adulte, t'as peut-être aussi envie de t'affirmer, je ne sais pas, je ne suis pas
c'est
psychologue,
hein,
mais je... Voilà.
Ah, on mais l'est un petit peu, tu sais, en faisant ce podcast.
C'est vrai, c'est
il y a un peu de ça.
Est-ce que tu dirais que tu t'es réconcilié un peu avec les mecs, ou pas encore?
Ah, je pense qu'il y a beaucoup de travail, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Déjà, quand j'ai pris ma psy, je voulais une meuf.
Donc, c'est une non-réponse, hein, déjà, t'as vu. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est ni oui ni non. C'est...
Ah oui, non, mais il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Enfin, déjà, je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à réconcilier, à comprendre mon père. Parce que je pense qu'il y a des trucs où c'était pas anodin. Enfin, il n'a pas juste fait ça parce qu'il nous aimait pas ou quoi que ce soit. Il y avait sans doute d'autres choses. Donc ça, il faut que j'arrive à le comprendre. Il faut que je... Déjà, ma psy, d'ailleurs, elle pense qu'il faut que maintenant, il faudrait que je prenne un mec comme psy pour être confronté directement au phallus.
Peut-être même qu'il aura une barbe et une grosse voix.
Peut-être même. Mais après, voilà, c'est un truc très drôle parce que les barbes et les grosses voix, j'adore, en fait. Enfin, il y a tout un côté où c'est très bizarre, en fait, de désirer quelque chose dont tu as peur et parce qu'en fait, tu as eu peur de toi-même. Pendant 5 ans, quand tu étais dans le coming out, tu vois. Mais ça, je l'avais déjà compris il y a pas mal de temps, tu vois, ce truc de, oui, de, t'es tout le temps tiraillé entre le désir et la peur, ou le désir et le complexe aussi. Parce que, au final, tu désires des gens parfois qui te complexent, ou voilà, enfin tu vois les masques, enfin comme disait du coup ton avis William Régeau, c'est ça?
Oui.
Ou voilà, il y a ce truc oui justement voilà tous les trucs masque for masque et coup oui qui peuvent créer un complexe justement quand tu euh, quand tu corresponds pas à cet idéal masculin. Et oui, et être tombé amoureux de gens qui te renvoient toutes tes insécurités et tes frayeurs psychologiques. Merci.
Je vais me servir de ça comme d'une nouvelle transition vers le sujet de la bite qu'on a raté parce qu'on a,
oui, qu'on a raté
dérapé.
Qu'on
a... Comment vont tes rapports avec ta bite ?
Eh ben, écoute, mieux. Mieux, parce que là, je suis quand même depuis 2 ans. Je fais plus de dysphorie post-coïtale. Donc,
bravo.
C'est qu'il y a un, c'est qu'on a un petit peu moins honte de soi-même, donc ça progresse, tu vois. Et je me suis dit, allez, entrons dans le vif.
Le vif, je suis là pour le vif.
Le vif du sujet, c'est-à-dire que moi, je m'interdisais presque d'être donc, ce qu'on appelle actif dans le milieu homosexuel, donc c'est-à-dire d'être le pénétrant. Et pour moi, c'était quelque chose de... Non, c'est pas pour moi. Enfin, je correspond pas, je sais pas, parce que je l'assimilais à la virilité, parce que je l'assimilais, enfin voilà, à toutes ces conneries, etc. Et maintenant,
progresser sur le sujet.
Les yeux qui pétillent. On a découvert des choses.
On se dit tiens.
Ce serait bête de rater la moitié
des
possibilités.
Ça. Alors que justement, on est dans des espaces intimes où justement, on peut tout se permettre et tous... Enfin, où on devrait pouvoir tout se permettre, pardon, puisque clairement, on se rend compte qu'on se permet si peu de choses dans tout ça. Oui, maintenant, bon, bah, je redécouvre... En fait, ouais, je pense que il y avait ce côté où je me considérais voilà que passif, même si j'aime pas trop ces mots hein, ça, parce que enfin clairement la passivité quand t'es passif je sais pas où elle est. Parce que c'est quand même tout un travail psychologique, enfin bon tu te prends quand même, enfin, bref.
On sait par où ça passe,
voilà.
Ah, ok.
Ah,
dans les fesses.
Il a fallu. Alors, pour ceux qui n'ont pas su, il a fallu expliquer à Fabrice.
Il a fait un schéma sur un paperboard.
C'est noté. J'avais pas. Hein, tu sais, moi, je suis.
Tu es pur.
Je suis pur.
Et donc là, je découvre les deux rôles. Donc souvent, on dit top ou bottom. Comme ça, il n'y a pas de truc de actif et passif.
Oui.
Et, ça passe mieux. Et aussi, je redécouvre, en fait, juste de ne pas le faire, forcément. Enfin, de ne pas forcément être dans la pénétration, en fait. Et de faire d'autres choses et qui sont du sexe quand même et voilà, on fait l'amour, on baise quand même, mais juste sans pénétration ou et moi ça va, avant je me disais non, enfin pour faire l'amour il faut forcément qu'il y ait ce garçon qui mette son zizi dans mes fesses quoi,
alors que finalement il y a plein d'autres choses à faire,
c'est ça, et alors que finalement plein de fois j'avais pas tellement envie parce que c'est quand même une préparation psychologique et parfois hygiénique ou on rentre dans le...
N'ayons pas peur des mots,
messieurs,
n'ayons pas peur des détails.
Messieurs les hétéros.
Ah oui, que n'hésitez pas, si vous en avez envie, à creuser aussi cette partie du corps dont vous êtes pourvu.
Et oui. D'une excellente prostate,
j'allais dire.
Oui. La prostate.
Qui vous fera à peu près le même orgasme que la bite, mais en fois 1000.
Fois beaucoup.
Fois énormément.
Très bien.
Ah, vos concours de jets entre hétéros, faites-le avec la prostate. Hein.
J'ai mis 2 secondes.
Alors, je savais... Quoi ? Des concours de jets entre hétéros ? De jets de sperme, tu veux dire ?
Ah bah écoute, moi, dans mon lycée, la rumeur...
Alors, on a eu la branlette entre potes, épisode 1. Épisode 2,
on a eu... Oui, mais pendant
2,
qu'ils font une branlette entre potes... Et souvent, ils peuvent, à la fin, parce que tu sais, voilà, jeu vidéo, je suppose, et tu te dis, concours, qui va le plus loin possible.
Mais t'as déjà assisté à des trucs ?
Non. Mais moi, j'étais pas invité.
Oui,
moi.
C'est ça.
C'est exactement ce que William nous a dit aussi. Oui, voilà. Parce que lui, il était en internat de garçon en plus.
Ah oui.
Et on lui a demandé s'il y avait des trucs de type branlette entre potes, et il m'a dit, à mon avis, j'étais pas invité.
Oui. Mais moi, je sais qu'il y en avait.
Il était menaçant, du coup.
Parce que c'est pas homo. Les
non,
entre
c'est
potes.
Pas gay, c'est des mecs qui se branlent dans la même pièce, mais c'est pas gay, ils insistent beaucoup là-dessus.
Ah mais c'est
là-dessus.
Vrai, de toute façon,
oui,
c'est vrai que c'est
non,
pas
mais
gay.
C'est vrai, mais c'est juste, oui. De ce fait-là, on exclut les gays qui pourraient, tu vois.
Ouais.
Mais faut avoir l'audace de passer un bon moment.
C'est bien de le préciser, parce qu'il y a quand même beaucoup, en tout cas même dans le milieu homosexuel, qui dit « Ah ouais, t'as branlé ton pote, t'es homo, tu vois. » Non.
Moi, j'ai déjà... dans ce cas, moi, tu vois, j'ai déjà fait un cuni. Bon, bah, enfin, non.
C'était comment? C'était avant que tu fasses ton coming. Enfin,
non, j'avais déjà fait. J'avais déjà fait mon coming out. Enfin, j'avais déjà. Non, enfin.
Qu'est-ce qui s'est passé alors? D'un coup d'un seul, tu t'es dit.
Oh, bah, une soirée.
On glisse. La fille est en jupe.
On glisse. Bon. Et non, et je la trouvais vraiment belle aussi. Et puis elle m'avait dit que j'étais jolie, alors.
Et c'était bien?
Oui. Oui, c'était bien. Bon, enfin, tu vois, j'ai jamais refait.
T'as juste fait le cuni, t'as fait. Pas plus.
Non, pas plus.
Ok.
J'ai une dernière question pour toi, Quentin, qui est la question que je pose à quasiment tous mes invités. Est-ce que tu as une idée de personnage, d'homme réel ou fictif, qui représente une vision positive de la masculinité?
J'y ai donc pensé toute la nuit.
Car je la pose en avance, puisque au début, je la posais sans prévenir et c'était des longues réflexions. Ça, ouais.
Gros séchage.
À brûle pour point, comme ça, il n'y avait pas grand-chose.
Eh bien, et je comprends, puisque clairement... Mais je pense que je me suis tellement construit contre ça, j'en ai aucun. Et moi, c'était les meufs. Moi, c'était les princesses Disney, tu vois, quand j'étais petit. Ensuite, ça a été des chanteuses, des machins, mais parce qu'en fait... Pour moi, le courage, c'est féminin, tu vois. Parce qu'elles se battent tellement plus fort que tout le monde. Et moi, au final, ben, je voulais être courageux, comme mes grandes sœurs, comme ma mère, et comme une princesse Disney.
C'est beau.
Putain, voilà la conclusion, bim.
Merci beaucoup, Quentin.
Merci,
Quentin.
Ben, avec plaisir.
Ah, c'était un super épisode, je suis très contente.
Tout à fait.
Merci. Donc, à vous. Ta BD Chromatopsie sort ce 14 juin. Elle
oui,
est très bien.
Tout à fait, vous dans toutes tout... les excellentes librairies.
Oui. Et si vous la trouvez pas, vous demandez à votre libraire de la commander. Et comme ça, il sera là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette intrigante bande dessinée? Et comme ça, il y aura plus de gens qui vont la lire et c'est trop bien.
Et ça va être top.
Oui. Retrouvez bien sûr tous les liens dans la description. Merci Fab d'avoir co-animé ce nouvel épisode de The Boys Club avec moi.
Merci Mimi de m'avoir invité.
Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu écoutes ce Boys Club sur YouTube, lâche un pouce bleu, abonne-toi. Et si tu veux réagir, ça se passe dans les commentaires. Et si tu es sur une plateforme de podcast classique, mets donc 5 étoiles à The Boys Club et un petit commentaire si tu peux sur iTunes. Comme ça, il sera recommandé à plein de gens et de plus en plus de gens l'écouteront. Et le monde sera plus doux. À dans 2 semaines.
Salut.
Bisous.
Salut.
Bravo. Bravo. On va manger.
Excellent.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.